Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Halud Mandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans ce Grand Dialogue. Un programme du studio Tamani en partenariat avec la Maison de la Presse reçoit tout au long de cette campagne électorale tous les candidats. Et nous recevons ce soir Mohamed Ali Batili, candidat indépendant. Avec lui, nous parlerons entre autres de sa candidature, de son projet de société, de la situation sécuritaire dans le nord et le centre du Mali, ainsi que de la lutte contre la corruption. Et pour animer ces débats, Mohamedou Touré et moi-même Kolsi Angarsou.
Le Grand Dialogue.
Monsieur Mohamed Ali Batili, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à quelques 20 jours de l'élection présidentielle. C'est une question que nous posons à tous les candidats. Quel est votre état d'esprit à l'heure qu'il est?
Je suis dans la conscience qu'il faut parler à notre peuple, qu'il faut sortir des clichés habituels des élections et des campagnes électorales, avec leurs flonflons, leurs mensonges, leurs cortèges de décor. Je crois qu'il faut aller à l'essentiel parce que notre pays a besoin vraiment d'être ramené à l'essentiel de son existence avec toutes les difficultés qui jalonnent le quotidien des Maliens en termes de sécurité, en termes de ressources économiques, en termes de stabilité. Il y a beaucoup de questions très sérieuses qui méritent que nous nous adressions à notre peuple en lui parlant les yeux dans les yeux de ce qu'il doit affronter pour s'en sortir.
Et pourquoi voilà. Êtes-vous candidat?
Notamment pour ça, pour parler à ce pays, pour être de ceux qui peuvent lui proposer des solutions à l'ensemble des difficultés qui structurent notre existence au quotidien. Je l'ai dit tantôt, je crois que depuis les années 1992, point de départ de ce qu'on appelle ces systèmes de démocratie, notre pays a surtout connu la course au pouvoir. Mais notre pays n'a pas su travailler pour l'État. Il y a une distinction très nette qu'il faut faire à ce niveau. On a chaque fois eu des pouvoirs qui se sont préoccupés des hommes qui les animent, de leurs intérêts, et qui ont laissé de côté le pays. Et le pays est allé progressivement volo. Il s'est progressivement affaissé parce qu'on l'a privé de l'énergie et de la ressource de son pouvoir. Ce pouvoir a servi à autre chose qu'à animer l'État. Et nous sommes en train de le payer chèrement aujourd'hui. Je pense que il faut mettre un terme à ce genre de spectacle déplorable, aux conséquences dramatiques, et dont le pays aura besoin d'une grande mobilisation de sa force pour pouvoir affronter les défis que cela lui a posés au fur et à mesure de l'avènement de ces régimes dits démocratiques. Et s'il y a un abus dans le vocabulaire politique au Mali, c'est bien cela. S'agissait-il de régimes démocratiques?
Voilà. Monsieur Mohamed Ali Batili, vous avez été ministre sous le régime d'Ibeka. Vous avez commencé à dénoncer une mauvaise gestion de l'État quand vous n'avez plus été ministre. Est-ce une course au pouvoir ou est-ce que c'est pour parler des préoccupations réelles du Mali?
Je crois que vous avez un jugement de valeur. Moi, j'ai dénoncé ce qui n'allait pas quand j'étais ministre. Et c'est peut-être pour ça qu'on m'a connu en tant que ministre. Parce que j'étais atypique. Je dénonçais. Je disais ce qui n'allait pas. Donc, c'est pas parce que j'ai quitté Ibeka, comme vous le dites, que je dénonce que je suis dans une course au pouvoir. J'affirmais vraiment l'État face à la dérive de la pratique qu'on en faisait quand j'étais ministre. Et on m'a connu quand j'étais ministre, parce que justement, c'était le ministre qui dénonçait. Moi, je me souviens une fois, et c'est l'opposition qui m'a dit, mais vous êtes un ministre opposant. Ça a été titré dans la presse. Ça a été écrit. Je n'ai pas commandé cette manchette de journaux, le ministre opposant. Donc, quand vous me dites, c'est quand je suis parti du gouvernement que je m'oppose, je trouve que vous avez un jugement de valeur, en tout cas très partial.
Pas partial, si, mais vous avez commencé beaucoup plus à dénoncer, à tenir des conférences de presse. Je parle de dénoncer la gestion du pouvoir.
J'ai dénoncé ce qui n'allait pas dans le fonctionnement de l'État et qui était imputable au pouvoir, à l'administration, à l'État. Je l'ai fait, moi.
Aujourd'hui, quel est votre bilan de ces plus de quatre années d'IBK?
Mon bilan, c'est que l'État aurait pu faire mieux. Et je crois que je l'ai dit tantôt. Vous voyez, les gens pensent que c'est une histoire de pouvoir, c'est une histoire de conscience et d'éthique. Quand on dirige l'État, si on est dans la gestion, et donc cette gestion, on essaye d'en extraire l'éthique et de le dire. Donc, le bilan d'IBK, c'est un bilan qu'il faut établir. J'ai peut-être pas les moyens d'établir tout ce bilan parce que j'étais occupé de façon sectorielle dans le travail du gouvernement et je n'avais pas les comptes rendus de tous les autres secteurs. Loin s'en faut. Le gouvernement lui-même n'a pas fait son bilan quand j'appartenais à ce gouvernement. C'est très difficile d'ailleurs de faire des bilans sectoriels avec M. le Président Ibrahim Boubacar Keïta. Tant les remaniements étaient nombreux, je me demande si on a le droit de dire que ces gouvernements étaient bons ou mauvais. Parce que les ministres, à peine étaient-ils installés, qu'ils s'en allaient, faisaient leur petit tour et ils s'en allaient. Rares sont les ministres qui ont pu rester longtemps dans des fonctions pour apporter des changements. C'était difficile, très difficile. Vous voyez, en 5 ans, 5 minutes, la justice. Donc, vous pouvez bien vous imaginer.
Mais si c'est difficile de faire le bilan d'IBK, est-ce difficile de faire votre bilan?
Moi, je peux faire mon bilan.
Allez-y.
Si je fais mon bilan, je dirais que c'est un bilan qui a été très difficile. Parce que toutes les réformes auxquelles je me suis attaché ont été écrites, déposées sur la table du gouvernement, mais ça n'a jamais été adopté. Mais je les ai faites, ces réformes. Je peux vous envoyer toutes les deux réformes écrites avec leur plan d'action. Donc, je peux dire, pour ma part, je peux me dire satisfait s'il s'agit de ma personne, mais je ne suis pas satisfait s'il s'agit du ministre Batili, parce que ces réformes ont été déposées et n'ont jamais été examinés par le gouvernement.
Si vous n'avez pas été satisfait du ministre Batili, pourquoi pensez-vous que les Maliens seront satisfaits
du président Batili? Non, c'est pas moi qui ne suis pas satisfait du ministre Batili. Je ne l'ai pas dit comme ça.
Non. Expliquez alors.
Je crois que vous prenez les mots comme ça vous arrange.
Expliquez, pas du tout.
Ah,
vous êtes là pas pour me convaincre, mais pour convaincre les Maliens.
Non, mais quand
c'est un
je
débat,
dois vous convaincre,
je pose
vous
des
aussi,
questions pour que le Malien lambda puisse comprendre.
Quand je dois vous convaincre, vous,
pas moi,
quand je dois convaincre les Maliens,
expliquez,
vous,
M. Batili.
Vous ne devriez pas aussi déformer ma pensée.
Je ne déforme pas,
non,
je
vous la déforme et ce n'est pas la peine d'aller sur ce terrain. Vous m'avez dit, j'ai dit, le Mohamed Ali Batili en tant que personne est satisfait. Il n'y a pas de problème. Je dis, mais le ministre Batili, lorsqu'il dépose un travail qui n'aboutit pas parce que le gouvernement ne l'a pas examiné, il ne peut pas dire qu'il est satisfait. Mais est-ce que ça veut dire, si je ne suis pas satisfait, que je ne suis pas satisfait de moi?
Mais monsieur Batili,
non.
Vous êtes resté quand même presque 5 ans au sein du gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta.
Et quel est le problème?
Si effectivement votre bilan n'est pas satisfaisant, pourquoi est-ce que vous avez accepté de rester autant d'années?
Je ne vous ai pas dit que mon bilan personnel n'était pas satisfaisant. Entendons-nous encore sur la façon de s'exprimer. Je parle bien français.
Allez-y.
Si on vous dit de venir dans ce studio, de préparer cette émission, pour m'interroger. Vous êtes venu, vous avez pris toutes les dispositions. Vous ne vous reprochez rien, mais si je ne suis pas venu, vous pouvez dire que je ne suis pas satisfait. Ça ne veut pas dire que votre travail n'est pas satisfaisant. C'est tout ce que je vous dis, monsieur. Vous êtes en train de me dire que si je dis cela, ça veut dire que ce n'était pas satisfaisant, ça veut dire que je devais démissionner. Est-ce que si moi je ne viens pas à cette émission, quand bien même vous avez tout préparé, vous devez démissionner?
Sa question, c'est pourquoi vous êtes resté?
Non, ce n'était pas la question. Il dit, si alors je ne suis pas satisfait, pourquoi je n'ai pas démissionné? Je n'ai pas dit que je n'étais pas satisfait. Mais je vais vous dire, je vais répondre à cette question qui est mal posée. Je suis resté parce que j'estime que à chaque moment de la vie d'un homme, tu as des convictions. Tu dois te battre pour les mettre en œuvre si tu estimes que tes convictions sont porteuses de changement. Ce n'est pas en partant que tu vas réaliser tes convictions.
Mais à partir de
attendez,
quel moment...
attendez, je vais vous dire. Attendez-moi. Vous me posez une question, je réponds ou je ne réponds pas.
Allez-y.
Donc, je vais vous dire. Quand je suis ministre de la Justice et que, de façon criarde, tout le monde dit « la justice pose un problème au Malien », on a, en ce moment, à poser une réflexion sur la justice. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, c'est le système actuel de la justice qui ne marche pas. Donc, il ne s'agit pas d'aller prendre des cas individuels d'injustice devant les tribunaux, parce que là, on n'en finirait pas. Au même moment, il y en a à Kaï, à Kenyeba, à Fikasso, à Kuchala. On ne peut pas être le Don Quichotte de la justice. Donc, je pose une réflexion sur le système qu'il me faut pour faire fonctionner tout cela et le sortir de ce dysfonctionnement. C'est ça la réforme judiciaire. C'est ça la politique judiciaire. Et ce n'est pas maintenant qu'on l'a posé au Mali. Ça a de tout temps été posé. Prenez les actes de tous les séminaires, vous trouverez ce mot. Impérativement, il faut une justice, une politique judiciaire au Mali. Bien, je suis venu, j'ai dit, c'est vraiment le cas. Sinon, la justice est en train d'aller dans tous les sens. J'ai pris le temps de réfléchir, d'écrire moi-même. Pas mon cabinet, Batili a écrit lui-même chaque mot de la réforme de la politique judiciaire. Ensuite, j'ai décliné cette politique en un plan d'action sur plusieurs années. Et j'ai chiffré chaque projet et chaque coup. J'estime que ça, c'est utile. Que moi, je sois au gouvernement ou pas, j'estime que ce travail est utile. Il ne s'agit pas de ma place, il s'agit de poser des politiques porteuses de changement dans ce pays. Donc, si j'ai pris le temps de le faire, de le déposer sur la table du gouvernement, d'organiser des réunions interministérielles, d'organiser des réunions au niveau des secrétaires généraux, de poser ma réforme devant les bailleurs de fonds pour le financement, et que les bailleurs de fonds m'ont dit « Nous te soutenons dans cette réforme et nous débloquerons 61 milliards sur cette réforme. » Je trouve que ce n'était pas de la plaisanterie. Et que ça valait la peine d'être fait. Si j'avais démissionné, ce ne serait pas fait. Mais ce n'est pas ma faute. Si déposé sur la table du gouvernement, on m'a fait changer de poste avant que ça n'aboutisse. Et que les ministres qui ont suivi, Mamadou Diarra a fait 6 mois, Madame Sanogo a fait, je crois, 7 mois, ensuite, le ministre Mamadou Konaté, ensuite le ministre Mamadou Maïga. Une réforme, j'ai étudié la réforme Les Canuets en France quand j'étais étudiant, parce qu'un de mes profs faisait partie de ça. Le ministre Les Canuets est resté 7 ans à la justice, personne ne l'a touché pour faire la réforme de la justice française, c'est pas en quelques mois. Je suis resté 14 mois à la justice du Mali pour faire une réforme de cette envergure. Ce n'était pas évident du tout, mais je l'ai fait et je ne regrette pas. Donc, ce n'est pas en démissionnant que j'aurais fait apporter cette solution. J'ai été au ministère des Domaines, exactement le même problème. Absence totale de politique foncière et domaniale. Un et de deux, qu'est-ce qu'il faut pour poser cette fois-ci la base de la création d'un cadastre au Mali afin de limiter les conflits fonciers? Ça aussi, j'y ai travaillé. Les documents sont sur la table du gouvernement. S'ils n'ont pas été adoptés, ce n'est pas ma faute. J'ai travaillé.
Monsieur,
alors, pour moi, Bathilde, chaque fois que je suis lancé dans un travail, je perçois l'importance de ce travail et je me dis qu'il faut le faire. Je prends le temps de le faire. Et si ça n'aboutit pas, vous me dites, mais pourquoi vous n'avez pas démissionné? Est-ce que c'est la démission qui est importante? Aller à côté grogner ou faire le travail et le laisser même à la disposition de quelqu'un d'autre pour que le pays en profite?
Mais à partir de quel moment, M. Bathily, vous vous êtes rendu compte que le président Ibrahim Boubacar Keïta n'avait pas tenu
ses promesses? À quel moment, je vais vous le dire, parce que cette question, j'y ai répondu plusieurs fois. Donc si l'homme public que je suis est suivi, je me suis exprimé plusieurs fois sur cette question. Elle est toute simple. Quand j'ai fini ma réforme domaniale et foncière et que je l'ai introduite, c'était sous le Premier ministre Modibo Keïta. À l'époque, le ministre Abdoulaye Idrissa Maïga était là, ministre de la Défense, il a tout suivi avec moi dans le gouvernement. Tout a été débattu. Il s'agissait de faire remonter au Conseil des ministres. Quand il a remplacé le Premier ministre Modibo, il est venu tout simplement, il m'a dit, je prends les domaines, je le donne aux finances et l'administration des domaines disparaît totalement. Il reste que la direction technique pour faire les titres fonciers. J'ai dit, mais non, on est la veille de l'adoption d'une politique foncière importante. 65% des Maliens vivent de la terre. Donc la question de la terre est majeure, à la fois sur le plan de l'économie, sur le plan de la sécurité et sur le plan des développements futurs. Vous ne pouvez jamais faire avancer un pays en laissant sur le bord de la route 65% de la population. C'est les paysans. Je lui ai dit, et c'est expliqué dans ma politique, que les progrès de l'Europe, c'est parti de quoi? Du règlement de la question foncière et du surplus de la production agricole qui a conduit en lien avec l'artisanat au machinisme agricole et à l'industrie.
Monsieur Bathily, vous prenez exemple sur les pays européens.
Laissez-moi finir. Vous m'avez posé une question, j'y vais au bout et vous allez intervenir.
Allez-y.
Le bout, c'est quoi? Pourquoi vous êtes parti, c'est ça? Vous ne me laissez pas répondre et vous voulez que je sorte ensuite? Non, je vais répondre.
Allez-y.
C'est important pour vous, c'est important pour moi. Alors, Abdoulaye, il a dit, je ferme le ministère des domaines. Vous êtes à l'habitat, urbanisme, affaires foncières. J'ai dit, quand j'ai lu son décret, j'ai dit, mais les affaires foncières, c'est quoi si on n'a pas les domaines? Et puis il me dit, appui à la politique agricole. J'ai dit, ah bon? Un ministre qui va construire des logements sociaux, il va appuyer les politiques agricoles. Je dis, mais franchement, on n'y est pas du tout. Monsieur le Premier ministre, vous me redonnez les domaines ou je démissionne? Démissionne. J'ai quitté son bureau à 8h30. J'ai été dans mon bureau, j'ai fait écrire ma démission, j'ai préparé la passation. Clair et net. Et le président m'a envoyé Ousmane Madani Haïdara. J'ai un témoin. Bathily, vient, on s'assoit, on discute. J'ai discuté avec lui. Je lui ai dit, monsieur le président, au-delà de ma fonction de ministre qui n'est pas importante pour moi, je tiens à cette réforme. J'ai des convictions. Je vous ai suivi à cause de ces convictions. Pour la justice, c'est rester en rade. Pour le foncier, si on me fait le même coup, je vous quitte. Et je m'opposerai à vous de la façon la plus claire. Ce sont là mes convictions et je ne les braderai pas pour des postes de ministre. Et c'est en ce moment qu'il a dit, redonnez-lui les domaines. On m'a redonné les domaines jusqu'au remaniement. Moi, je ne savais pas que lui, pour lui, c'était une simple manœuvre. Bathily ne doit pas démissionner. J'attendrai le prochain remaniement pour le sortir. Mais je lui avais dit ce jour, ce n'est pas mon poste qui est important. Donnez le poste à qui vous voulez. Si vous gardez cette réforme, je vous soutiens parce que j'y crois. Mais le jour où, moi, je me rendrai compte que vous balayez cette réforme d'un revers de main, monsieur le Président, je serai face à vous, contre vous. Parce que ce n'est pas parce que je m'opposerai à vous, mais parce que je crois que l'intérêt du peuple malien, c'est de passer par là. fait de passer par là. Donc, quand vous voyez les choses, un ministre, c'est peut-être une fonction. Mais dans la fonction, il y a un homme. Et l'homme a ses convictions. Et ses convictions, si vous les touchez, il a le droit de réagir. C'est tout.
C'est la principale raison de votre divorce avec le président Ibrahim Boubacar Keïta?
C'est la principale raison, mais c'est une raison dont il faut faire l'exégèse. Parce que si vous prenez cette raison en soi, vous allez me dire, c'est un fait. Mais non, c'est une conviction encore. C'est-à-dire que, moi je pense que les politiques publiques sont faites pour tout simplement permettre l'intérêt du plus grand nombre. Et moi je dis, quand vous dites que 65% de vos concitoyens sont des ruraux, et que l'ensemble des directions politiques jamais qui ont existé au Mali, quel que soit le régime de Modibo Keïta à nous, tout le monde s'échine à dire et à répéter. Sans le développement de l'agriculture, il n'y aura pas de développement. Et comment faire le développement d'une agriculture sur la base d'un foncier non maîtrisé, où la terre est considérée plus comme une ressource naturelle que comme un bien économique juridiquement protégé? Comment? Comment faire ça? Et on peut alors comprendre que depuis la première fois qu'on a dit ça jusqu'à nos jours, si ça n'a pas marché, c'est parce qu'il y a ce travers, ce ver dans le fruit. Si on ne veut pas que le paysan soit propriétaire de sa terre, comment va-t-il investir là-dessus? Si on ne lui donne pas un outil de propriété capable de le projeter dans le monde de l'accès au crédit et au financement, c'est-à-dire si on ne lui donne pas le titre foncier, comment va-t-il se développer? Est-ce l'État qui va aller dans chaque propriété familiale apporter le développement? C'est faux. Cela n'est pas possible. Mais c'est l'État qui construit des politiques publiques permettant aux uns et aux autres de tirer les conséquences de cette politique et de faire leur propre projet de développement. Et c'est à cela que je crois. Et tant que la terre n'est pas donnée aux producteurs en tant qu'outil juridique d'accès au crédit et au financement, donc en tant que bien économique capable de constituer sûreté foncière des prêts ou des investissements que le paysan attend, il n'y a pas de développement au Mali.
Monsieur Bathilde, nous avons 45 minutes pour le débat, déjà 17 minutes. Alors vous êtes candidat à la présidentielle de 2018. Quels sont les grands axes de votre projet de société?
Mon projet de société, c'est de prendre à bras le corps justement cet aspect économique. Donner la terre aux paysans. Quel en est l'avantage? C'est de créer à partir de ce titre foncier gratuit, je dis bien gratuit, le plus grand fichier fiscal foncier du Mali, le plus grand fichier fiscal tout simplement. Parce que personne ne renoncera à la propriété de sa terre à cause de la fiscalité. Tout le monde va s'inscrire dans ce fichier pour dire « je suis propriétaire de mon lopin de terre ou de ma maison ». À partir de là, vous pouvez avoir un impôt foncier modulable selon l'activité qui est conduite sur cette propriété foncière. Et vous pouvez avoir engrangé des recettes d'une importance que nul ne peut soupçonner. Je l'ai dit au président Ibrahim Boubacar Keïta, permettez-moi de faire aboutir ma réforme. Je double les recettes de la douane et des impôts réunis en matière foncière, moi, ministre des Domaines. Donc, la gratuité du titre ne met pas en cause la recette, mais seulement la gratuité du titre consacre le principe de la domanialité, c'est-à-dire de la propriété du paysan sur son terrain.
Et quelle a été sa réponse à votre question?
Tout le monde a dit bravo. Moi, je vous assure, même le ministre de l'Économie et des Finances, en me regardant, il a dit, c'est vrai que c'est un système qui peut marcher. C'est ce qui a marché ailleurs. Et ça a marché ailleurs. Moi, je l'invente pas, hein. C'est pas que je suis original. Je l'invente pas, ça a marché ailleurs. Il suffisait peut-être que nous acceptions de faire cette politique-là. Donc, mais si tu prends cette politique, et je le prends comme une réalité économique, en partant d'une donnée toute simple, en 2015, l'ensemble des sûretés déposées dans les banques du Mali sur la base foncière ont permis de donner aux Maliens, ceux qui ont déposé leurs titres dans les banques, 1537 milliards de francs CFA, quand le budget du Mali n'était que de 2000 milliards. J'ai calculé. Et c'est ce budget, sur ce budget de 2000 milliards, qu'on a dit que le président a atteint ce record de 15% du budget qu'il a alloué aux paysans. Les 15% ne faisaient que 300 milliards. Et il a donné 1000 tracteurs, ça faisait 18 milliards. Donc voilà, l'investissement de l'État par rapport à l'agriculture, c'est 318 milliards. Mais les titres fonciers déposés dans les banques ont permis de sortir 1537 milliards. Y a-t-il combien de milliers de tracteurs en raison de 18 milliards par 1000 tracteurs? Y a-t-il combien de milliers de tracteurs dans 1537 milliards? Y a-t-il combien de possibilités de fourrage allant d'un coût de 5 à 10 ou 12 millions selon les régions pour les propriétés agricoles? Et qu'est-ce que cela peut offrir comme possibilité économique et d'emploi rural pour les jeunes? Et quel type de formation peut-on introduire dans nos écoles pour accompagner cet essor économique? Voilà des questions essentielles qu'on peut se poser au Mali et qui sont les questions de la réalité du développement du
Mali. Et que proposez-vous concernant les domaines de la sécurité, l'éducation?
Il faut d'abord faire la paix. C'est important. L'éducation, je viens de le dire, il faut décrocher l'éducation.
Vous dites qu'il faut d'abord faire la paix. Comment allez-vous faire pour...
Je crois que vous avez dit l'éducation, la paix. J'étais dans l'éducation
vous,
par rapport
c'est
à
l'économie. C'est vous qui l'avez dit, il faut d'abord faire la paix.
Il faut d'abord faire la paix.
Comment?
C'est très simple. Moi, je pense que la mise en œuvre de l'accord d'Alger, issu du processus d'Alger, comme on aime le dire, est un peu déficitaire. D'abord, de façon endogène, il est déficitaire. Et de façon exogène, il l'est aussi. Endogène, ça veut dire que quand on lit les accords d'Alger, c'est du droit, mais vraiment bien élaboré, bien écrit. Et je vais vous dire une chose, la délégation malienne qui a été à Alger, il n'y avait pas de juriste là-bas. Moi, je l'ai appris à la radio, j'étais ministre de la Justice. Le jour de leur départ, personne ne m'a dit on va à Alger négocier, on a besoin des juristes. Et il n'y a qu'au Mali qu'on peut concevoir qu'à un tel niveau d'intervention de l'État, il n'y a pas d'accompagnement de juristes. C'est dommage. Je me suis dit qu'on venait d'arriver, les choses étaient un peu, tout le monde se bousculait, mais l'accord a été bien écrit. C'est d'une facture de juristes internationaux. Une facture vraiment de juriste de droit international. Donc, quand on l'a ramené, moi, l'accord, je l'ai eu par l'ambassadeur des États-Unis, pas par le gouvernement du Mali. J'étais ministre. Il n'a jamais été discuté. Et pourtant, un jour, je l'ai dit au Premier ministre, quand vous nous dites de défendre l'accord, amenez-le pour qu'on en discute, monsieur le Premier ministre. Sinon, ça ne va pas. Ça n'a jamais été déposé sur la table du gouvernement pour faire l'objet d'une discussion ni politique, ni technique. Donc, je veux vous dire que c'est très délicat, ça. Il fallait qu'on s'approprie l'accord. Et ceux qui ont en charge de l'appliquer, c'est principalement les ministres de la Défense, de la Sécurité, de la Solidarité, de l'Action Humanitaire. C'est pas de ce côté-ci qu'il faut souvent aller chercher les aspects techniques d'un accord juridique. Ce qui a manqué dans l'application, donc le déficit interne, concerne tout simplement les mécanismes d'application. Quand on a un accord comme ça, il est bien écrit, mais pour le mettre en œuvre, il faut des mécanismes d'application. Pour vous dire un exemple, pour la première fois, dans le jargon juridique du Mali, on dit qu'il faut aller à la régionalisation. Donc la régionalisation, elle n'a jamais été définie. Et aucune pratique de régionalisation n'a existé jusqu'ici. Donc pour aller vers la régionalisation, il faut en définir tous les mécanismes et les étudier. Voilà un mécanisme d'application. Quand vous dites même le retour des réfugiés, c'est très simple ça, dans le vocabulaire. Mais qui est réfugié? Le réfugié, c'est peut-être seulement l'adulte qui a connu une vie dans un endroit donné qui a dû l'abandonner par des circonstances pour aller à l'extérieur et qui revient. Mais l'enfant qui était très jeune, qui était tout mineur, qui lui est parti avec ses parents, il n'était pas réfugié. C'était un citoyen qui a grandi ailleurs. Le jeune adolescent qui avait 5 ans, et le jeune enfant qui revient 5 ou 6 ans après le conflit, il a déjà 11 ans, il a 12 ans. Les besoins ont changé pour lui. Il s'est adapté très vite à une autre vie. La vie de l'adulte réfugié ne la connaît pas. Donc, pour appliquer, par exemple, ce retour des réfugiés, il y a beaucoup de choses à faire. Si vous dites la démobilisation, désarmement, réinsertion, démobilisation ou désarmement, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire un mécanisme fondé sur la balistique qui va aller récolter les douilles pour définir d'abord les armes détenues par les combattants et qu'au moment du désarmement, ce soit effectivement ces armes-là qu'on saisisse et non n'importe quelle arme comme cela a été fait lors de la flamme de la paix à Tombouctou. Voilà des mécanismes qu'il fallait s'asseoir pour étudier, en définir le nombre, les articulations et le projeter dans la mise en œuvre, endogène, de façon exogène. Qu'est-ce qui a manqué? Jusqu'ici, le traitement de l'accord vers la paix, ça a été un traitement institutionnel et administratif. On n'a pas mis en œuvre les mécanismes socio-culturels de la paix. Chaque société recèle en soi des mécanismes propres qu'on ne retrouve qu'en elle et qui lui sont spécifiques pour régler ses propres conflits. Donc ces mécanismes auraient dû être recherchés, mis en œuvre au travers de leur spécificité dans les aires du conflit. Et cela allait amener d'autres acteurs pour parler de la paix. Ça pouvait être des notabilités à cause de leur origine sociale, à cause de leur érudition et peut-être qui ont la confiance de tout le monde et qui n'apparaissent nulle part dans les mécanismes écrits. Et ça, on aurait pu faire un truc complet avec. Donc, il faut rechercher la paix sous toutes ses dimensions et dans tous ses vocables. Un, c'est prioritaire. Totalement prioritaire. Quand vous dites la sécurité, ça c'est la paix. La sécurité, moi je crois que j'ai peut-être pas étudié beaucoup l'art militaire, mais j'ai lu quelques grands ouvrages là-dessus. La sécurité dépendra de la capacité du Mali à réunir l'information dans les aires de conflit et à les traiter. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il est très facile. Moi, quand j'ai été voir Barkhane à Gao, c'est une quarantaine de jeunes assis, chacun avec un ordinateur et des satellites qui balayent le nord du Mali. Et ils décèlent tous les mouvements, tous les déplacements. Ils envoient N'Djamena, on traite. Et en ce moment, s'il faut intervenir, les avions décollent. Donc c'est l'information et la mobilité. Ce n'est pas des milliers de troupes, des troupes aveugles qui se font sauter sur les mines ou qui se font agresser entre deux distances parce que personne n'a de la bonne information. Ce n'est pas possible. Le Mali est trop vaste. Vous ne mettrez jamais une armée suffisamment nombreuse, équipée avec du matériel classique comme ça, sans vous appuyer sur une logistique que les nouvelles technologies donnent. Le Mali, quand même, doit avoir la possibilité de louer un ou deux canaux satellites pour contrôler tout son territoire et informer les spécialistes de l'armée afin que, lorsqu'ils partent vers une cible, vraiment, ils ont su que c'est la cible. Ils l'ont évalué, ils s'équipent en conséquence, ils se déplacent en conséquence et ils vont la neutraliser. Mais s'ils vont à l'aveugle, c'est pas possible. Donc, il y a quand même un niveau de traitement de la sécurité qui ne peut être laissé au hasard et à l'équipement classique de l'armée. C'est pas possible. On n'est pas dans la guerre version westphalienne de 1646 où deux armées s'opposent. On est dans un conflit où il y a un dysfonctionnement total parce que l'autre adversaire n'est pas une armée, on ne le voit pas. Alors que toi, tu exposes des soldats visibles qu'on voit.
Monsieur Batili, vous êtes candidat indépendant. Et les 4 ou 5 années passées au gouvernement, est-ce une expérience politique suffisante pour prétendre être président de la République?
Moi, je crois que être président de la République, c'est avoir une imprégnation assez forte, à la fois des valeurs institutionnelles de l'État et de l'éthique qui doit accompagner cette imprégnation-là. Et on peut faire 20 ans, si on n'a pas cette imprégnation, ce n'est pas le nombre d'années au gouvernement, c'est la qualité de la perception qu'on a de l'État. La perception. C'est très important. Parce que je le disais tantôt, au début, que ce qui est le problème dans nos sociétés, en Afrique en général, il y a la course au pouvoir dans une ignorance totale de la valeur de l'État. L'État, c'est une construction. Et elle est juridique, hein, du début à la fin. De la Constitution aux textes qui vous permettent, vous, d'exercer la profession de journaliste, moi, d'exercer la profession d'avocat, au médecin d'être médecin, au douanier d'être douanier. Tout est dans l'articulation des textes et dans leur cheminement en commun pour créer une harmonie qui permette à la collectivité d'être inspirée et de pouvoir avancer. L'État, c'est cela. Mais lorsque vous donnez l'État à des gens qui n'ont pas cette compréhension de l'État, eh bien, ils exerceront le pouvoir, mais l'État restera quelque part en rade. Alors que le pouvoir, on peut l'exercer même sans connaître l'État, mais si vous êtes mal inspiré, eh bien, vous allez faire de la dictature ou de n'importe quoi.
Monsieur Batili, vous avez pris exemple sur la France en citant la réforme de la justice 7 ans. Est-ce que vous aviez besoin de 7 ans pour pouvoir changer quelque chose?
Non, je dis ça pour vous dire que je l'ai fait en 15 mois. Je vous dis que la réforme d'une institution aussi importante que la justice a besoin de beaucoup de temps. Elle a besoin de beaucoup d'énergie. Elle a besoin vraiment, j'allais dire, de beaucoup de conviction. Parce que là, vous choisissez des modèles. Vous fondez une institution et vous la refondez en d'autres modèles. C'est important. Et ce n'est pas important quand je dis qu'il faut 7 ans. Mais je vais dire qu'au Mali, depuis tout le temps, tous les actes écrits au niveau de la justice au Mali, tous les séminaires, j'ai participé. On dit, sans politique judiciaire, la justice est non maîtrisable.
D'accord. Si vous êtes élu président de la République, vous avez besoin de combien de temps pour changer la situation?
Moi, si je suis élu président de la République, je commencerai par faire adopter la réforme.
Mais vous avez besoin de
combien
de temps?
La réforme, je vous l'ai dit, que je l'ai déclinée en plan d'action. Et les plans d'action, je les fais sur 25 ans. C'est-à-dire, j'ai écrit
donc
tout
le mandat présidentiel de 5 ans ne vous suffira pas.
Non. Réformer la justice, c'est une œuvre. Ce n'est pas destiné à un mandat de président ou de ministre. Non. Vous commencez une œuvre et si vraiment elle est réussie, elle va carrément au-delà de votre mandat. Si je n'avais que mon mandat dans la tête, je ne l'aurais pas fait. Parce que je sais que je n'aurais pas fait 5 ans ministre de la justice. Au Mali, c'est rare les gens qui ont fait 5 ans ministre de la justice. Mais j'ai quand même commencé en disant qu'il faut bien que quelqu'un commence. Et que cette personne, même si c'est au niveau de la simple réflexion qu'elle arrive à donner quelque chose, et si ça se poursuit, eh bien, un jour, on aura un résultat.
Deux gros mots minent la vie politique, la société malienne, la corruption, la mauvaise gouvernance. Si vous êtes élu président, comment compteriez-vous améliorer cette façon de faire? Comment compteriez-vous apporter des solutions à ces phénomènes qui gangrènent le pays?
Moi, je pense que, franchement, c'est un champ qui ne m'est pas du tout inconnu. Pas du tout. Les méthodes de lutte contre la corruption, ne serait-ce que de par ma formation, j'ai étudié, j'ai participé à des ateliers, je ne sais combien d'ateliers de prospective sur les méthodes de lutte contre la corruption. Franchement. Ça, je le sais. Mais la corruption, elle est générique. C'est un mot comme ça pour décrire un mal. Mais les formes de ce mal changent, sont variables, d'un secteur à l'autre, d'une situation à l'autre. Quelle est la situation globale du Mali? Moi, je crois me souvenir d'un rapport que j'ai lu sur le Mali quand j'étais étudiant. C'était un rapport du Bureau international du travail en 1972 qui disait qu'au Mali, l'État fait semblant de payer les gens qui font semblant de travailler.
Et ça persiste.
Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a changé? Je crois pas. Les salaires sont bas. Et pour qu'un homme soit honnête, payez-le honnêtement avec un salaire qui lui permette de vivre honnêtement. Moi, je trouve que c'est une question importante qu'il faut résoudre au Mali, la question des salaires. Tous les gouvernements qui évitent de le faire parleront en vain de la lutte contre la corruption. Ça, je l'ai dit au président quand il a dit en 2014, c'est l'année de lutte contre la corruption. Je lui ai dit, est-ce que vous êtes prêt à augmenter les salaires?
Monsieur Batili, je vous renvoie à votre question. Vous dites que, est-ce que ça a changé, la question des salaires, c'est un droit? Est-ce que votre passage au ministère de la Justice a pu changer quelque
chose?
Moi,
je ne paye pas les gens au ministère de la Justice.
Mais c'est un droit des Maliens.
Non, qui vous a dit le contraire? C'est moi qui vous dis une chose et vous êtes en train de me convaincre de ce que je vous ai dit.
Vous dites que vous ne payez pas les gens, mais vous êtes ministre de la Justice. Avoir un salaire, c'est un droit.
C'est pas ce que je viens de dire, que je l'ai dit à M. le Président de la République, à M. le Premier ministre, si vous voulez vraiment parler d'une politique sérieuse de lutte contre la corruption, il faut revoir le niveau des salaires. Je l'ai dit. Mais à l'époque, c'est tout ce que je peux dire. C'est la base. C'est ce que j'ai appris et j'y crois.
Donc si vous êtes élu président, vous allez augmenter le salaire des Maliens.
Si je suis élu, je ferai un audit d'abord de ce qu'il y a comme moyen dans l'État. Il ne faut jamais croire qu'on peut faire une chose dont on n'a pas les moyens. Mais faire l'audit peut me conduire à rechercher les moyens. Comment faut-il les chercher? Pourquoi ces moyens manquent? Ça peut me permettre de le savoir. Moi, ce que je peux vous dire à cet égard, et c'est amusant, très amusant. Aujourd'hui, je suis un soninké. J'ai des parents dans le monde des affaires. Ils me disent qu'on leur envoie des avis de paiement de la première tranche des impôts de 2019.
Monsieur Batili, il reste deux minutes.
Bah oui,
en ce moment... Est-ce que vous allez augmenter le salaire des Maliens?
Peux les augmenter à partir de l'audit. Ce n'est pas de la magie, on ne crée pas l'argent par magie. Je vous dis la méthode que je peux utiliser pour arriver à comprendre quelles sont mes limites. Et à partir de là, quelles sont les solutions que je dois chercher?
En 30 secondes, M. Batili, nous allons vous poser une question de nos téléspectateurs, de nos auditeurs, qui nous demandent par exemple, vous êtes le père d'Eras Bhatt, le célèbre activiste dont la force de mobilisation n'est plus à démontrer. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle, mais votre fils, lui, décide de soutenir notre candidat, en l'occurrence, Soumaïla Cissé. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Pourquoi n'a-t-il pas soutenu son père?
Est-ce que c'est mon fils, Eras Bhatt? Eras Bhatt est un homme public qui s'est créé son statut d'homme public, c'est pas son père qui le lui a donné. Il l'a fait avec des structures, avec des hommes. Est-ce que le CDR lui appartient comme un patrimoine qu'il peut venir donner à son père? Moi, je crois qu'il faut respecter les structures, ne pas faire de confusion. Tout se passe très bien entre Mohamed Youssouf Batili, mon fils, et moi. Et moi, je n'avais pas de lien avec le CDR.
A-t-il confiance en vous?
Si vous lui posez cette question, je voudrais savoir
oui
sa réponse.
Ou non?
Moi, je vous dis, tout se passe bien entre nous.
Alors,
c'est comme si vous ne l'avez pas entendu.
Vous a pas soutenu.
Mais vous voulez me faire dire, peut-être lui n'a pas confiance en moi. Ça, c'est autre chose. Le CDR a décidé d'aller soutenir Soumaïla. Est-ce que vous savez si Eras Bhatt me soutient en tant que... Mohamed Youssouf me soutient en tant que Mohamed Youssouf.
Est-ce qu'il vous soutient?
Oui, il me soutient.
Parce Mohamed que, Ali Batili,
parce
nous
que
sommes...
je discute avec lui, parce qu'il me donne des idées, parce que il a sa façon de me soutenir. Mais si sa structure a décidé d'aller chez Soumaïla, ne confondez pas sa structure et lui. C'est comme si vous me dites aujourd'hui...
Merci, vous aura compris. Mohamed Ali Batili, merci d'avoir répondu à nos questions. Chers téléspectateurs et auditeurs, merci à vous également d'avoir regardé ce grand dialogue. Nous recevions Mohamed Ali Batili, candidat indépendant à la présidentielle, du 29 juillet prochain. Ce programme recevra tous les jours, tous les candidats, chaque candidat, donc dans le cadre de cette élection présidentielle. C'est une initiative du studio Tamani en partenariat avec la Maison de la Presse. Très belle soirée, à demain.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry, Haloud Mandi.
Chienne Berry.